Alors, Bruno Sicardi, ici présent, était planétologue. Il est enseignant, professeur à Paris 6, Université Pierre et Marie Curie. Et le souvenir que j'ai de... J'ai un souvenir personnel qui m'a toujours beaucoup... quand j'y repense, qui m'a beaucoup ému, en 82, as-tu dit, parce que je vais complètement oublier la date, eh bien, je me trouvais à la CIA, observatoire du Chili, dans les Andes, alors que Bruno était là avec son équipe. Je ne sais pas si André Braille était présent à l'époque.
Peut-être, je sais pas.
Oui, donc toute une équipe d'observateurs de Meudon qui était venue détecter, enfin, il va vous expliquer tout cela mieux que moi, la présence d'anneaux autour d'Uranus, c'est cela. Je crois que c'était Jupiter, c'était Uranus. Bon. Alors, moi, j'étais scientifique, déjà observateur aussi, et je devais avoir eu quelques nuits, soit avant, soit après, les observations de Bruno, et j'avais été invité sous la coupole, et je me souviens très bien avoir assisté donc en direct à la quasi-extinction d'une étoile passant juste derrière ces anneaux, qui étaient évidemment invisibles sur l'écran, sur les moniteurs de télévision, et je trouvais que cette espèce de détection en direct d'un phénomène de ce genre, moi, m'avait particulièrement... surprise, enfin, émue et impressionnée. Voilà. Ben, je crois que c'est voilà, ce genre de choses que ça fait 20 ans, mais Bruno en tout cas a continué et a réalisé une belle moisson de résultats dont il va nous parler ce soir. Voilà, merci.
Bien, merci beaucoup. Est-ce que le micro marche déjà? C'est bon? Ok. Alors, je vais vous parler aujourd'hui. Bon, je fais plusieurs choses au point de vue activité professionnelle. Comme vous indiquait Daniel, j'enseigne à l'université Pierre-Marie Curie, donc c'est une partie de mon travail. Notre partie du travail est un travail plus théorique à l'Observatoire de Paris-Meudon sur des problèmes d'orbite, de résonance entre les satellites, les anneaux et les corps du système solaire, donc quelque chose de plus mécanique céleste. Et puis j'ai une partie de mon travail qui est plus observationnelle, et je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu ce travail observationnel où on part sur le terrain avec des télescopes sur le dos, où on va éventuellement dans des coupoles de très grands télescopes pour observer des phénomènes d'occultation. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce phénomène d'occultation donc j'ai eu la chance d'observer depuis une vingtaine d'années maintenant, un peu plus. Et également, à la fin, vous raconter plus en détail peut-être une expédition que je viens de faire en Équateur, donc un petit peu comme l'expédition en Angola pour observer les éclipses. Là, c'était l'occultation de satellites de Uranus Titania qui était visible d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et donc, je vous ai expliqué comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'on a fait et comment tout ça s'est arrangé pour pouvoir observer ce phénomène. Alors, autre chose, c'est, bon, je pense que dans l'assistance, il y a sans doute des amateurs, au sens qui observent, donc avec des petits télescopes. Vous indiquer comment, en fait, souvent, les observations que l'on fait peuvent être faites par des amateurs avec des instruments de l'ordre de 20-25 cm et peuvent être faites de manière fort utile. Donc, c'est un exemple assez joli, je pense, d'interaction entre astronomes professionnels et amateurs qui permettent d'avoir des résultats scientifiques en fin de compte, donc des publications, des résultats nouveaux, originaux, grâce donc à cette collaboration entre amateurs et professionnels. Qui est relativement rare, en fait, dans la profession, je dois dire, puisque les amateurs n'ont en général pas des télescopes de 5 mètres de diamètre à leur disposition. Alors, au point de vue donc, du phénomène lui-même dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle une occultation. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une planète ici, ou un astéroïde, ou un satellite, et ces corps se déplacent dans le ciel par leur mouvement autour du Soleil, et il bouge par rapport aux étoiles. Et de temps en temps, cette planète ou cet astéroïde va passer devant une étoile. C'est un phénomène rare, puisque les planètes ont des diamètres angulaires très petits sur le ciel. Les étoiles brillantes, il n'y en a pas beaucoup dans le ciel. Et donc, c'est un phénomène d'éclipse, si vous voulez, qu'on appelle techniquement d'occultation, qui permet d'avoir qui est rare, mais qui, lorsqu'il se produit, permet d'avoir une foule d'informations sur l'objet. Alors, la chute, si l'objet possède une atmosphère, la chute va être graduelle et la manière dont cette disparition se fait va dépendre, bon, vous apprendre des choses sur la température de l'atmosphère, le profil de densité, la composition éventuellement. Si on a la chance d'avoir une occultation centrale, c'est-à-dire que l'étoile passe juste derrière le centre de la planète, on a ce qu'on appelle un flash central, c'est un phénomène encore plus rare que l'occultation elle-même. Mais en fait, on a observé ce type de flash centraux, y compris il y a 11 ans depuis Paris. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une planète avec des anneaux, cette étoile, lorsqu'elle passe derrière les anneaux, va disparaître de chaque côté ou d'un seul côté, selon la structure des anneaux. Alors, c'est quelque chose donc qui permet à la fois d'avoir des informations sur l'atmosphère, sur la taille de l'objet, puisque la durée de l'occultation a donné une information sur le diamètre de l'objet, et puis sur l'environnement de l'objet, en particulier la présence d'anneaux. Sachant que typiquement, ces planètes ont quelques secondes d'arc. La seconde arc, une unité d'angle. Donc c'est un angle tout petit, et donc cette seconde arc est un angle tout petit, et il faut attendre souvent assez longtemps pour pouvoir faire une observation d'occultation. Alors, pour être très simple, on peut quand même faire un petit schéma qui indique comment ces occultations permettent en particulier d'avoir des informations sur l'atmosphère de la planète. Alors, l'étoile ne va pas être, en fait, ne va pas disparaître derrière la planète. En fait, lorsque les rayons de l'étoile arrivent près de l'atmosphère de la planète, ces rayons sont réfractés, un petit peu comme dans un prisme. Et cette déviation, donc, est un phénomène qu'on appelle de réfraction, donc un petit peu ce qui se passe lorsqu'un rayon lumineux arrive près d'un prisme et est réfracté. Et cette réfraction va dévier les rayons lumineux en provenance de l'étoile et va faire qu'un pinceau lumineux rouge ici va s'écarter à la sortie donc, du passage ici et arriver sur Terre après plusieurs millions, voire milliards de kilomètres. Et donc, ce pinceau lumineux va s'étaler de plus en plus. Et c'est ce qu'on appelle un phénomène de défocalisation qui va en fait faire diminuer le signal à mesure que l'étoile plonge dans l'atmosphère. Et en fait, le fait d'observer depuis la Terre cette occultation va permettre de remonter à la structure de l'atmosphère, donc en particulier la pression, la densité, la température, en fonction de la hauteur au-dessus du sol ou du centre de la planète. Alors, si cette étoile, en plus, passe derrière un anneau, ici, elle va être absorbée, donc plus réfractée, mais si un anneau bloque la lumière, en fait, l'étoile va disparaître, non pas par phénomène de réfraction, mais par pur phénomène d'absorption. Alors, autre chose, c'est que ceci est extrêmement sensible, d'une part, à l'atmosphère. On peut détecter comme ceci des atmosphères qui vont jusqu'à 10.6 atmosphères terrestres, le microbar, donc le millionième de bar, ou même moins, je vous indiquerai tout à l'heure. Également, lorsqu'on recueille le signal ici, avec un échantillonnage de, pas, de temps suffisamment petit, on arrive à avoir une résolution sur cet axe-là de quelques kilomètres, et donc une résolution également de quelques kilomètres, aussi bien sur les anneaux éventuels que sur l'atmosphère. Donc on a une résolution, si vous voulez, sur l'objet qu'on est en train d'étudier, de quelques kilomètres pour des objets qui sont situés à plusieurs milliards de kilomètres. Donc c'est bien en deçà de ce qu'on peut faire par imagerie directe. La contrepartie étant qu'on ne fait qu'une coupe de temps en temps dans ces objets et on n'est pas en mesure de faire des observations d'occultation tous les soirs pour un objet donné. Alors là, je vais vous indiquer, bon, on pourrait passer des heures sur tous ces phénomènes. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui s'est fait, d'expériences auxquelles j'ai pu participer, dans les années précédentes. Alors, dans les années 80, donc détection des anneaux d'Uranus, dont parlait Daniel tout à l'heure, également la découverte des anneaux de Neptune. Et puis, je vais parler rapidement de Titan et Triton, qui sont des satellites respectivement de Saturne et de Neptune. Observé donc depuis l'Europe, depuis l'Australie, le Texas, une occultation dont je ne vais pas parler de Jupiter, par Jupiter, observée depuis le Québec il y a 2 ans, et puis une dernière qui est observée il y a quelques mois depuis l'Équateur, dont je vais parler plus aujourd'hui. Alors, je vais lancer la première diapo. J'appuie simplement ici. Il y a un code à faire. C'est bon ? Donc voici un observatoire qui est à Chili, c'est l'observatoire européen austral, qui se trouve dans les Andes chiliennes à 500 km au nord de Santiago, dans un endroit assez aride, et où on a fait les premières observations des anneaux de Neptune, et également on n'a pas fait les premières, mais parmi les premières observations des anneaux d'Uranus. Alors ceci donc sont les coupoles, ici vous avez les habitations. Et donc, on va là-bas, on observe pendant une semaine, on observe l'occultation pendant une nuit, par exemple, et puis on reprend l'avion, on va à Santiago, on prend l'avion, on revient à Paris. Et tout ça dure une semaine, donc pour quelques minutes d'observation, parfois. Et puis, vous avez donc plusieurs coupoles, nous on observe ici, au 3,60 m, qui est le plus gros des télescopes, et puis vous avez un ensemble d'autres coupoles qui fonctionnent de manière parallèle. Il y a un problème là. Que j'ai fait la bonne. Voici donc les chambres. Vous voyez que c'est spartiate, mais bon, c'est confortable quand même. Donc, vous voyez le 3,60 m qui est derrière ici. Il y a un problème. Il faut avoir un doigt d'Hercule là ou non? Non, non. Il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Ah. Il faudrait installer un miroir. Ah, peut-être en réfléchissant. Alors voici le 3,60 m, donc c'est un télescope qui a un diamètre de 3,60 m, donc qui est un télescope européen, construit par un consortium de dizaines de pays européens. Donc on met l'instrument derrière, donc les rayons arrivent ici, réfléchissent sur le miroir primaire, vont sur le miroir secondaire, et repartent vers leur miroir primaire, et traversent un trou dans un miroir primaire, et vont sur le détecteur, où on observe soit le spectre, soit le phénomène d'occultation, soit les images, etc. Alors ça, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le nouveau site de l'Observatoire européen austral qui est à 2000 km au nord de Santiago, qu'on appelle le VLT, dont je parlerai un peu plus tard. Alors voici l'occultation à laquelle faisait allusion Daniel. Donc, vous avez ici le temps qui se déroule comme ceci. Donc le signal qui vient de l'étoile. Et puis ici, vous avez 1 et c'est 0, pas d'étoile. 1, vous avez l'étoile. Et puis, vous suivez l'étoile. Et puis, d'un coup, elle va disparaître, etc. À mesure que l'étoile et Uranus se rapprochent. Ensuite, l'étoile, je vous montrais tout à l'heure des exemples, va disparaître derrière Uranus ou Neptune, la planète. Elle va ressortir. Et ici, on a refait le même diagramme en inversant l'axe de temps. Et donc, l'étoile, de nouveau, repart, s'éloigne de nouveau de la planète. Et puis, de temps en temps, ici, elle va disparaître derrière des anneaux. Alors, vous voyez donc, en fait, que ces anneaux sont quasiment impossibles à détecter depuis le sol, du moins à l'époque, au début des années 80. Et en 1977, une équipe américaine et indienne a réussi à découvrir ces anneaux par phénomène d'occultation. Et cette occultation, ici, a été observée en 82, donc par notre groupe, avec le télescope de 3,60 m que je vous ai montré dans la diapo précédente. Alors, ceci a été un moyen très puissant de découvrir des anneaux autour des planètes, puisqu'en fait, ils sont trop proches et trop faibles pour être observés directement par imagerie. Par contre, ils sont extrêmement bien visibles par occultation, puisqu'ils vont faire disparaître l'étoile de temps en temps. Et puis, en regardant la position de ces anneaux, vous arrivez à reconstituer leur orbite, leur forme, etc., de manière très précise, avec des positionnements qui ont des précisions de l'ordre du kilomètre ou moins. Donc, vous avez ces anneaux dont on peut reconstituer la forme avec une précision qui est d'une fraction de kilomètre pour un objet qui est quand même à 3 milliards de kilomètres. Donc, vous voyez un petit peu la précision qu'on peut obtenir sur ces objets. Alors voici des détails observés lors de cette occultation des anneaux. Alors ici, bon, je ne vais pas entrer trop dans la description, mais vous avez 100 km ici, vous avez des détails à l'intérieur de ces anneaux de quelques kilomètres qu'on peut détecter. Ici, vous avez ce qu'on appelle des franges de diffraction. Lorsque l'étoile arrive sur les bords extrêmement nets d'un objet, provoque des franges de diffraction. Et toutes ces structures ici à l'intérieur, c'est là.
jamais de travaux pratiques à l'université parce que j'ai réussi à casser à peu près toutes les manies de TP lors de mes études et ensuite lorsque j'étais enseignant.
Ben voilà, j'ai épuisé une pile en 10 minutes. J'espère qu'il y en a d'autres parce que. Bon. Alors ceci donc c'était pour les anneaux d'Uranus, qui ont une structure très particulière, vous voyez, très étroite, de quelques kilomètres de large. Au point de vue dynamique, c'est intéressant comment on arrive à maintenir des anneaux dans des zones si étroites, comment ils arrivent à se maintenir sans s'étaler par collision respective. Interne dans les anneaux. Alors là, je vais passer à quelque chose qui est plus... donc, qui rencontre plus, si vous voulez, une découverte, en fait, qui a découvert des anneaux de Neptune qu'on a continué à observer, toujours depuis les eaux, et puis depuis le télescope de Hawaï. Alors, je vais montrer quelques diapos de tout ça, en essayant de faire marcher l'appareil. La pile. Bon. Alors ceci, donc, c'est je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, c'est le site où a été installé le Very Large Telescope au Chili, donc à peu près 2000 km au nord de Santiago, et où sont installés de nouveaux instruments dont je vous montrerai tout à l'heure quelques performances. Alors, diapo suivante, si j'y arrive, non, ça ne marche pas, ok. Alors voici l'un des télescopes que nous avons utilisé lors de ces observations donc d'occultation, qui est l'Observatoire de Hawaï, au milieu du Pacifique, à 4200 mètres d'altitude. C'est un télescope qui est, au point de vue diamètre, similaire à celui de les autres, 3,60 m, et qui également nous a permis d'observer et de suivre les anneaux de Neptune grâce à ce phénomène d'occultation. Vous voyez la neige sous les tropiques, donc c'est à 4200 mètres d'altitude, au sommet d'un volcan de l'île d'Hawaï. Diapo suivante. La même chose au coucher du soleil, diapo suivante. Vous voyez ici le cône d'ombre donc de Hawaï sur la mer de nuages en bas. Donc on est à 4200 mètres d'altitude sur le Pacifique, d'où une qualité de ciel exceptionnelle puisque vous n'avez aucun relief autour qui vient gêner les observations. Alors, diapo suivante. Alors, voici donc le télescope de 3,60 m de l'ESO. Diapo suivante. Alors, ceci, c'est pour reprendre les occultations par Uranus. Vous voyez donc la trajectoire de l'étoile ici, observée en 1982, depuis les eaux au Chili et depuis le pic du Midi, qui a permis d'avoir des coupes. Si vous placez à différents endroits sur Terre, l'étoile ne va pas être vue exactement pareil par rapport à Uranus. Et donc, vous pouvez faire des coupes différentes et donc détecter les anneaux des endroits différents, voir s'ils sont pareils ou pas, et en particulier reconstituer leur forme. Donc, ces deux trajectoires ont été observées le même jour, la même heure, depuis le pic du Midi au sud de la France, dans les Pyrénées, et depuis le Chili, et a permis donc la détection des anneaux à deux endroits différents, et donc de comparer, si vous voulez, les structures à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Alors, diapo suivante. Alors ça, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure en transparent, sauf que c'est en anglais ici, et puis vous avez les lettres grecques, ici vous avez donc le temps qui se déroule. Diapo suivante. Même chose, diapo suivante. Et ceci, donc, c'est l'une des premières images qu'on a pu avoir depuis la Terre, plusieurs années après, en fait, avec le télescope spatial, donc près de 20 ans plus tard. Le télescope spatial a finalement pu faire des images des anneaux de Uranus, qui avaient été donc découverts à la fin des années 70 par occultation. Et donc, vous voyez l'anneau principal, le plus brillant, qui s'appelle l'anneau Epsilon, et puis les petits satellites de Uranus qui se déplacent autour d'Uranus. Ici, vous avez des nuages sur Uranus. Donc, vous voyez en fait que la découverte des anneaux s'est faite depuis la Terre, bien avant qu'on puisse observer ces anneaux directement depuis la Terre par télescope spatial interposé. Le télescope spatial n'étant pas gêné par l'atmosphère de la Terre, n'étant pas gêné par la turbulence atmosphérique. Alors, diapo suivante. Donc, vous voyez les autres anneaux intérieurs, puis les petits satellites qui bougent au cours de la pause, ce sont plusieurs pauses ici. et donc qui ont permis d'avoir des images directes de ces anneaux, et sachant qu'ils avaient été vus donc par ces phénomènes d'occultation. Dans la diapo suivante. Alors ceci est une image qui n'a pas été prise par le télescope spatial, mais par la sonde Voyager, qui allait directement vers Uranus en 1986, donc près de 10 ans après la découverte des anneaux depuis la Terre, et qui ont fait, cette sonde a fait des images extrêmement précises, beaucoup plus précises que le télescope spatial, puisqu'elle était plus près, des anneaux d'Uranus, qui ici sont au nombre de 9. Donc le plus brillant est celui-ci, qu'on voyait sur les images du télescope spatial précédente, et puis ceci, c'est les plus faibles qu'on devinait à l'intérieur. Alors, diapo suivante. Oui, alors ça, ce sont des détails de l'anneau vu par la sonde Voyager, qui ont des structures, vous voyez, qui certains sont doubles, d'autres sont très étroits et très compacts, d'autres sont larges avec des structures internes. Bon, peu importe. Tous ces détails sont réels, en fait, sont intéressants, puisqu'en fait, ce sont des anneaux extrêmement étroits. Et on pense qu'il y a des satellites autour de ces anneaux qui permettent de confiner la matière et de les obliger à rester dans des endroits extrêmement précis. La diapo suivante. Alors, en particulier, ici, vous avez un satellite. On en voit un ici, tout à fait au sommet. Et ces deux satellites, on pense, sont responsables du confinement de cet anneau, l'anneau Epsilon, le plus brillant, et donc empêchent cet anneau de s'écarter et le maintiennent, toute cette matière, dans une zone très précise. Alors, ceci, c'est intéressant au point de vue théorique, puisque c'est un exemple où la matière est confinée par des satellites. Et donc, on oblige la matière à être certains endroits autour de la planète. Donc, c'est un moyen, si vous voulez, d'accumuler la matière à certains endroits autour d'une planète et peut-être certains moyens de former des satellites autour d'une planète. Tout état de cause, c'est quelque chose qui est intéressant de point de vue théorique et de formation des satellites autour d'une planète par confinement de matière à partir de satellites déjà formés. Alors, diapo suivante. Alors, ceci, donc, c'est la découverte des anneaux de Neptune faits par une équipe de l'observatoire de Meudon avec également en collaboration avec une équipe de l'université de Arizona à Tucson qui montre en fait la découverte des anneaux de Neptune. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure, je vais l'expliquer un petit peu par quelques transparents. Donc vous avez ici la planète Neptune avec des étoiles qui passent derrière de temps en temps, enfin c'est plutôt Neptune qui se déplace. Et puis, de temps en temps, en fait, on a observé des occultations, par exemple ici, et puis il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'étoile est évidemment occultée par Neptune, mais on n'observe rien de particulier ici ou là, comme c'est le cas pour Uranus. Et en fait, il est arrivé qu'en 1984, on a observé une occultation depuis le Chili, d'une part à l'observatoire européen, et d'autre part à une centaine de kilomètres de cet observatoire, dans un observatoire américain, donc il y avait une équipe de Tucson, Arizona. Et on a observé un phénomène d'occultation ici, qu'on voit ici, où l'étoile a disparu derrière quelque chose. Par contre, elle n'a pas disparu ici. Et l'année suivante, depuis Hawaï, j'étais allé observer une autre occultation, et l'étoile a disparu ici, derrière quelque chose. Donc visiblement, on avait affaire à quelque chose qui était confirmé par d'autres observateurs, mais qui n'était pas complet, ce n'était pas un anneau complet. Puisque si on observait quelque chose ici et que l'anneau était complet, on aurait dû observer quelque chose l'année d'avant ou d'après ici. Et donc, finalement, on aurait dû reconstituer un anneau complet. Alors ça, c'était la découverte de ce qu'on appelait des arcs. Des arcs dans la... dans le sens que ce sont des anneaux interrompus. Alors voici l'interprétation qu'on en a faite. À l'époque. Donc vous avez ici le trajet de l'étoile par rapport à Neptune qui est ici, et puis l'étoile a disparu derrière un petit bout, un petit fragment d'anneau qu'on appelle un arc, et en fait les deux stations ont recueilli l'occultation par quelque chose ici, et qui était orienté exactement comme serait orienté un anneau autour de Neptune. Alors là, je n'ai pas continué le trait, mais on a observé assez loin ici, de l'autre côté, et on n'a rien observé ici. Donc on avait interprété ça comme un bout d'anneau qui se promenait autour de Neptune, qui n'était pas complet, et donc on appelait un arc. Alors l'année suivante, ça a été fait depuis Hawaï, l'observatoire de Hawaï, qui est un télescope Canada-France-Hawaï, CFH, et on a observé de nouveau cet arc, ou un autre arc en tout cas, on ne sait pas. Donc ça c'est l'occultation par Neptune, donc l'étoile a disparu, elle réapparaît de derrière Neptune, elle va disparaître derrière quelque chose, et tout ça, ces petites fluctuations sont dues à l'atmosphère de la Terre. Et on a pu voir la structure de cet arc en détail, par exemple celui de Hawaï en 85. Vous avez une structure avec une largeur d'à peu près... J'ai l'impression que cette pile va mourir aussi. Une largeur d'à peu près 15 km. Oui, ouais. Il y en a un autre aussi. Une largeur d'à peu près 15 km. Donc la largeur de cet arc, si vous voulez, la largeur radiale, est de 15 km. Ça montre la précision de ces observations d'occultation, puisque ça permet de détecter un objet qui a une largeur de 15 km au niveau de Neptune, qui est à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre. Et puis peut-être une composante diffuse de cet arc. Bon, ça, c'est autre chose, quelque chose de plus détaillé. Donc ceci a été fait en 84, puis en 85. Et la sonde Voyager est arrivée au niveau de Neptune en 1989 et a effectivement montré que Neptune est entouré d'anneaux, mais aussi d'arcs, comme on l'avait prévu par occultation. Donc ici, vous avez le croissant de Neptune. La sonde est passée derrière Neptune, le Soleil quelque part à gauche, loin. Vous avez des étoiles dans le fond ici, plus des rayons cosmiques qui ont pollué, si vous voulez, la photo. Et puis, vous avez un anneau très faible, qu'on appelle l'anneau Le Verrier, en l'honneur donc, du découvreur, par calcul au moins, de Neptune. Et puis l'anneau Adams, un autre découvreur britannique qui avait calculé la position de Neptune grâce aux perturbations sur les perturbations d'Uranus. Vous voyez que l'anneau Adams a trois surbrillances qui sont en fait des arcs qui ont une densité à peu près 10 fois plus forte que la densité des anneaux continus ici. Donc quand une étoile passe derrière cet anneau, ces anneaux sont trop diffus pour qu'on puisse détecter une chute depuis la Terre. Mais par contre, si l'étoile passe derrière cette surbrillance ici, quelque chose de plus brillant en lumière réfléchie, donc plus épais en lumière transmise, l'étoile va disparaître. Et donc, en 84, l'étoile est passée derrière cet arc intermédiaire. Ils sont trois, donc il y a liberté, égalité, fraternité, qui sont les noms de ces trois structures. Donc, ceci, c'est un profil de ces arcs qui sont très bizarres. Donc, c'est un profil longitudinal, cette fois-ci, de 0 à 360 degrés. Donc, ceci, c'est l'anneau continu qu'on voyait. Alors, après, ça se répète au bout de 360 degrés, évidemment, c'est la même chose qu'on voit. Et puis, vous avez ces trois surbrillances avec un tout petit, qu'on appelle courage, ici, à côté, et qui, en fait, sont stables sur plusieurs années. On les a observés en 84, en 85. La sonde Voyager les a observés en 89. Et de nouveau, on les a observés en 99 par optique adaptative depuis le télescope de Hawaï. CFH Hawaï. Et donc, on ne comprend pas actuellement comment de telles structures peuvent se maintenir stables autour d'une planète. Si vous avez un arc de matière, il va se défiler, si vous voulez, il va se répartir autour de la planète de manière uniforme. Et on ne comprend pas actuellement très bien pourquoi des structures arrivent à tourner de manière en bloc. Donc, ces quatre arcs tournent en fait autour de Neptune. Et on les a réobservés en 99 depuis la Terre. Et on a retrouvé en gros cette structure. Et il tourne de manière solidaire autour de la planète. Alors ça, c'est très bizarre. C'est très intéressant également au point de vue théorique, puisque non seulement cette matière est confinée radialement à un endroit très précis, sur une région de moins de 15 km de large, mais également il y a un autre mécanisme de confinement longitudinal qui oblige la matière à rester à un endroit très précis. Et de nouveau, ça peut être intéressant pour étudier la formation des satellites, puisque vous voyez que si la matière dans ces anneaux est obligé de se répartir et de se mettre à un certain endroit très précis, ça peut être des endroits privilégiés pour, à cet endroit-là, former un satellite. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des équations, mais bon, ceci, c'est des théories de formation de ces arcs avec un petit satellite qui tourne autour, qui perturbe les arcs et qui, en ayant un mouvement un peu compliqué qu'on appelle un mouvement résonant, arriverait à confiner ces arcs. On peut faire des simulations numériques de ceci. Ceci, c'est des simulations numériques que j'avais faites avec un étudiant dans les années 90 qui permet de montrer qu'un tel satellite permet effectivement de concentrer à certains endroits des particules et au contraire à avoir des densités moins fortes à d'autres endroits. Donc ça, c'est un calcul théorique qui tient compte de perturbations d'un satellite qui en fait a été découvert par Voyager et qui permettrait de perturber suffisamment les particules pour les accumuler à certains endroits. Alors voici donc des images qui ont été faites en 99. On a retrouvé ces arcs. Donc, d'une part avec Le télescope de Hawaï que je vous ai montré tout à l'heure avec optique adaptative. L'optique adaptative est une technique qui supprime la turbulence atmosphérique. Donc vous prenez une image, vous regardez une image de référence qui peut être une étoile brillante. Cette image va turbuler, donc va dégrader la qualité de l'image. Un ordinateur va calculer la déformation que l'atmosphère induit sur l'image de cette étoile. Il va calculer la déformation inverse à faire sur un petit miroir flexible pour corriger cette turbulence. Et ensuite, ce miroir flexible va renvoyer l'image de l'objet qu'on veut étudier sur la caméra et il va se déformer de manière à compenser exactement, ou le plus exactement possible, les turbulences atmosphériques. Et ceci permet d'avoir des images d'une qualité extraordinaire grâce à ce qu'on appelle l'optique adaptative, et donc qui permet quasiment de s'affranchir de l'atmosphère terrestre, entre guillemets, à savoir à supprimer la turbulence de l'atmosphère terrestre. Alors ici vous avez des... Alors ceci, ça a été dessiné par les auteurs, hein, ce n'est pas des choses réelles. Ces ellipses-là sont des satellites, petits satellites de Neptune qui avaient été découverts en 89, qu'on a donc retrouvés en 99. Et puis les arcs de Neptune qui sont cette petite patatoïde allongée ici, qui était en gros la position prévue par la théorie. Alors ceci a été fait à peu près en même temps, quelques semaines d'intervalle, par le télescope spatial, qui a une qualité un peu plus grande, mais pas tellement plus grande, deux, trois fois plus grande, pas plus. Vous avez Neptune ici, et puis les arcs de matière que l'on voit agrandis ici, donc il y a liberté, égalité, fraternité, qu'on a retrouvé grâce au télescope spatial. Alors ici, vous avez une autre image du télescope spatial montrant donc la Neptune ici, l'un des satellites ici, un autre satellite là, et puis les arcs ici. Et donc on a étudié les mouvements des arcs, on s'est aperçu que la théorie de confinement des arcs par un petit satellite était plus compliquée que prévu, que les arcs n'avaient pas le mouvement prévu exactement par la théorie, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça permet, si vous voulez, actuellement, grâce à l'optique adaptative, d'avoir des images qui restent, même depuis le sol, et qui sont compétitives avec les images Voyager, d'une part, et qui sont également compétitives avec les images de télescope spatial. Alors voici une image qui a été prise par le télescope spatial, 98, dans l'infrarouge. Donc vous voyez le globe de Saturne avec les anneaux de Saturne, ici. Donc vous voyez une résolution de l'ordre d'une fraction de seconde arc, de 0,2 seconde arc. Et ceci est une image qui vient d'être prise au VLT que je vous ai montré tout à l'heure, où il n'y avait rien pour l'instant, en optique adaptative, en infrarouge, vous avez les anneaux de Saturne avec une résolution similaire. Donc ça veut dire que pratiquement on est rentré dans une ère actuellement où ceci a été pris par une caméra infrarouge au Very Large Telescope au Chili, et donc avec des résolutions à peu près similaires au télescope spatial. Donc, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une ère où on a des images depuis le sol qui sont compétitives avec ce qu'on peut faire depuis l'espace. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Autre chose qui est important, j'espère avoir illustré, c'est l'interaction constante entre les observations depuis la Terre qui permet de découvrir des phénomènes comme des anneaux nouveaux, et puis les missions spatiales qui vont étudier ces objets de plus près. Donc, une fois que ces anneaux ont été découverts, les missions spatiales ont été reprogrammées pour observer ces anneaux. Une fois que les missions spatiales sont arrivées, elles ont eu des données sur ces anneaux qui ont été observés. On les a réobservés plus tard depuis la Terre. Donc, il y a un va-et-vient incessant entre les observations depuis le sol, depuis la Terre, et les observations depuis l'espace et les missions spatiales. Donc, il ne faut pas croire que les missions spatiales sont une chose, les missions au sol sont autre chose, il y a une interaction permanente. Alors là, je vais vous indiquer rapidement d'autres observations qui ont été faites. Alors je vais réessayer de... J'ai réussi à casser. Alors bon, ça c'est... Alors je vais essayer. Non, je vais essayer. Alors ceci, c'est donc une occultation dont je vais parler par Titan, qui avait été observée depuis le pic du Midi. Le pic du Midi, donc vous voyez ici. Ah, ça marche une seule fois. Là. Voici, le micro marche toujours. Hein. Voici donc une gravure, enfin une peinture de Pic du Midi en 1910, lors de la passage de la comète de Halley. Actuellement, donc, diapo suivante. Une fois-ci, une photo du télescope de 2 mètres. Nous avions observé l'occultation par Titan, un satellite de Saturne, il y a 11 ans, 89. Donc, vous voyez la mer de nuages en bas. Donc, de nouveau, des conditions exceptionnelles. Au-dessus d'une mer de nuages, vous voyez, qui est à peu près à 500 mètres plus bas. Diapo suivante. Donc, on a l'impression d'être sur un bateau au Pic du Midi. Vous voyez, vous avez un téléphérique qui arrive ici, un plan incliné. Et puis, on observe, ici, c'est des conditions exceptionnelles. Ce jour-là, le jour où on a observé l'occultation par Titan, on voyait en fait au loin les monts de Massif Central, hein, qui sont assez loin des Pyrénées. Diapo suivante. Donc, cette ambiance de bateau, vous voyez, on a une terrasse sur le Pic du Midi, puis un à-pic ici de plusieurs centaines de mètres qui va plonger dans la mer de nuages. Alors, diapo suivante. Alors, ça, c'est François Collat, collègue de l'Observatoire de Paris, qui observait cette occultation avec moi ce jour-là. Alors, qui prenait une photo de moi, j'imagine. Moi, je prenais une photo de lui. Alors, vous voyez que les barrières sont assez sommaires, là, quand même, donc il ne faut pas trop s'approcher. La diapo suivante. Voilà, alors voici Jean Le Cacheux, qui a toujours les cheveux longs, d'ailleurs. Et puis d'autres observateurs, François Collat, et puis d'autres, un amateur ici, deux observateurs amateurs, Jean Bourgeois et Buille, Christian Buille, qui sont venus observer cette occultation avec d'autres télescopes. Donc vous voyez de nouveau, ça c'était en 89, c'est un astronome professionnel, Jean-Louis Vidal. Donc cette interaction entre amateurs et professionnels pour observer un événement qui était un événement par une étoile très brillante et donc facilement observable par les professionnels bien sûr, mais également par les amateurs. Alors, diapo suivante. Donc ça c'est le télescope de 2 mètres avec lequel on avait observé, le télescope de 2 mètres du Pic du Midi. Diapo suivante. Bon, ça j'en parlerai un peu après. Alors cette occultation a été observée donc en 89. C'est une étoile qui s'appelle 28 Sagittaire, qui a une magnitude à peu près 5, donc qui est en fait 5,5, donc qui est visible à l'œil nu, qui avait été occultée le 3 juillet 89 par Saturne. Et quelques heures après, le système saturnien a avancé, ou de manière équivalente, l'étoile s'est déplacée par rapport au système, et Titan est passé juste devant l'étoile. Alors ceci, c'est absolument miraculeux, puisque Titan fait moins d'une seconde d'arc sur le ciel. La probabilité pour qu'on ait à la fois une occultation par Saturne, Saturne est passé derrière le centre de l'étoile est passée derrière le centre de Saturne, donc ce qu'on appelle un flash central dû à Saturne, et ensuite l'étoile est passée derrière le centre de Titan, donc il y a également un flash central observé par Titan. Ce flash central est dû à la focalisation des rayons lorsque l'étoile passe exactement derrière le centre l'objet. Ces rayons sont focalisés sur l'étoile et donc Titan agit comme une immense loupe, lentille, et a focalisé le signal pendant quelques secondes sur Paris. En fait, c'est passé sur Paris, sur Meudon, Paris. Et donc, c'était une tâche de l'ordre de 50 km de diamètre qui a balayé la Terre et qui est passée, en fait, et le centre de ce flash central, en fait, on peut calculer, est passé en gros à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Donc, vous voyez, la probabilité, on peut calculer ça. Ça doit se compter en quelques millions d'années avant qu'un tel événement se produise, surtout par une étoile de magnitude 5, donc très brillante. Donc voici la trajectoire de l'ombre de Titan sur le sol. Ici, vous avez le flash central qui a balayé, si vous voulez, la zone Europe et qui est passé exactement sur Paris, et également sur le nord de l'Allemagne et puis le sud de l'Angleterre. Vous voyez qu'on était très bas sur l'horizon ici à 15 degrés, mais on a pu observer depuis Meudon, en fait, en juillet, à 15 degrés sur l'horizon, cette occultation. Alors voici cette occultation observée ici au Pic du Midi avec le télescope de 2 mètres. Donc vous voyez l'étoile disparaissant derrière l'atmosphère de Titan, et avec des choses intéressantes qui sont ces pics ici, qui sont réels, qui ne sont pas dus à l'atmosphère terrestre. Ceci est dû à l'atmosphère terrestre, mais ceci est dû à l'atmosphère de Titan. Donc l'étoile scintille ici dans l'atmosphère de la Terre, et là, elle scintille dans l'atmosphère de Titan. Alors ceci, pour comparaison, c'est l'occultation d'une étoile par Neptune, qui a disparu dans l'atmosphère de Neptune, et qui a en fait scintillé très fortement également dans l'atmosphère de Neptune. Alors, cette scintillation est intéressante puisqu'elle traduit des inhomogénéités et des ondes, si vous voulez, la turbulence dans l'atmosphère, soit de Titan, soit de Neptune. Donc on a accès finalement à des paramètres de turbulence de ces atmosphères. En voici une très belle ici, par Neptune. Vous avez des turbulences, donc des pics extrêmement forts, où le signal peut remonter jusqu'à 2 ou 3 fois le signal normal, à cause de cette turbulence, de ces ondes, si vous voulez, qui se propagent dans l'atmosphère ici de Neptune. Alors, cette occultation avait été observée par de très nombreux amateurs, aussi bien en Europe qu'en Israël, et même il y a une courbe ici plus bas, je n'ai pas mis d'Ouzbékistan. La courbe d'Ouzbékistan, en fait, a été tapée à la machine par quelqu'un qui regardait le phénomène. Il y avait son compagnon qui tapait le signal à la machine, il disait le voltage sur l'écran. Et cette feuille donc dactylographiée a été envoyée à Vilnius, à d'autres astronomes, qui l'ont donnée à un collègue amateur britannique, qui a rencontré un autre amateur allemand qui, finalement, m'a donné une feuille de papier avec des chiffres qui étaient tapés en temps réel par un astronome en Ouzbékistan et qui a permis d'avoir une courbe de lumière un peu plus bas ici. Alors, évidemment, il avait 3 points par seconde parce qu'il tapait vite, mais pas si vite que ça, alors que les instruments automatiques comme les caméras ou les photomètres permettent d'avoir plusieurs données ou images par seconde. Alors, donc là, on voit l'importance des observations d'amateurs, puisque ces amateurs ont permis d'observer cette occultation avec des qualités relativement bonnes. Alors, ceci a permis de reconstituer le profil. Alors, ça, c'est l'altitude, et ceci, c'est la densité de l'atmosphère. Donc, ceci, ce sont les modèles théoriques, et ceci, c'est la densité de l'atmosphère en fonction de l'altitude au-dessus de la surface de Titan. Et on essaie donc de comparer ensuite les modèles théoriques et la réalité. Donc vous voyez que ça colle pas si mal que ça. Ces fluctuations dont j'ai parlé tout à l'heure ont permis de montrer que Titan avait des phénomènes d'ondes, ce qu'on appelle des ondes de gravité. Ce sont des ondes comme dans une piscine, si vous voulez, qui se propagent dans l'atmosphère d'une planète comme la Terre, ici comme Titan. Et donc ça permet d'avoir des informations sur l'état dynamique de l'atmosphère et voir comment... En fait, elle aussi par l'effet de ces ondes de gravité. Alors, ces ondes de gravité sont observées sur la Terre à peu près à la même pression. Vous voyez ici, c'est la densité, en fait, c'est la variation de densité par rapport à un modèle moyen de l'atmosphère de la Terre à 80 km, donc à peu près à 1 microbar, donc 10 puissance moins 6 bar, qui correspond en gros à l'altitude que nous, on a sondée sur Titan. Donc, vous voyez que Titan et la Terre ont des phénomènes d'ondes qui se propagent, qu'on appelle les ondes de gravité, et qui ont des caractéristiques communes au point de vue amplitude, spectre, etc. Donc vous voyez qu'on peut observer depuis la Terre à plus de 1 milliard de kilomètres des ondes se propageant dans une atmosphère. Alors voici le flash central observé depuis Hanovre. Donc l'étoile disparaît et lorsqu'elle passe au centre ici, vous avez un flash central observé à Hanovre par des amateurs. Ceci a été observé à Meudon, l'observatoire de Meudon, donc une flash centrale ici. Et puis ici, de nouveau à Hanovre, voilà, avec une échelle légèrement différente. Et ce flash, le pic du midi également, un peu moins fort. Voici donc le flash central observé par à Meudon. Je ne sais pas si François, tu es Sèvres, ce n'est pas toi qui vas observer ce... Et Arlo, c'est ça? Mais tu étais à Meudon ce jour-là. D'accord. Voilà, donc vous avez. Voilà. Donc ce flash central a permis de reconstituer la forme de Titan, du moins l'atmosphère de Titan de manière très précise. Alors ce flash, en fait, si l'atmosphère de Titan était sphérique, ce serait un point au centre. Mais comme l'atmosphère de la planète ici, c'est Mars, mais l'atmosphère d'une planète en général est aplatie. Le flash central va déformer, il va former ce qu'on appelle des caustiques, un petit peu ce qui se forme au fond des bols. Donc vous avez un bol de cacao, vous avez des caustiques qui sont des reflets qui se font au centre du bol. Et en fait, cette caustique ici est très sensible à la forme du limbe ici, c'est-à-dire à la forme de l'atmosphère. Donc vous voyez que lorsque vous traversez en fait cette caustique, vous avez un phénomène ici de discontinuité de signal, qui permet de reconstituer cette caustique et finalement de reconstituer le limbe de Titan. Alors, sans entrer dans les détails, ceci a permis de reconstituer le limbe de l'atmosphère de Titan avec des précisions. Alors ça, c'est le rayon équatorial de Titan. Et vous voyez qu'entre le rayon équatorial de Titan et le rayon polaire, vous avez une différence d'à peu près 30 km. Donc ceci nous a permis de voir que le rayon polaire équatorial de Titan était différent. Donc Titan est légèrement aplati. D'une trentaine de kilomètres entre le pôle et l'équateur. Donc, vous voyez que c'est une quantité extrêmement petite et que le flash central, si on a le chance de l'observer, permet d'avoir une information très précieuse là-dessus. Et puis, pour ceux qui connaissent mieux ce genre de problématique, en fait, l'aplatissement de l'atmosphère de Titan est même lié à la rotation de l'atmosphère. Donc, plus l'atmosphère tourne sur elle-même vite, plus l'atmosphère est aplatie. Et donc, ce type de profil de limbe, donc la mesure de l'aplatissement de l'atmosphère, permet de reconstituer les vents sur Titan. Donc là, on a montré que Titan, l'atmosphère de Titan tourne sur elle-même en quelques jours, alors que Titan tourne sur lui-même beaucoup plus lentement en une quinzaine de jours. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme pour Vénus. L'atmosphère de Vénus tourne en 4 jours, alors que Vénus met plusieurs dizaines de jours pour tourner sur elle-même, 200 et quelques jours pour tourner sur elle-même. Si c'est la même chose, Titan met 15 jours pour tourner sur lui-même, et l'atmosphère, par des systèmes de vent très puissants, tourne beaucoup plus vite sur elle-même. Alors, donc ça, c'était pour Titan. Donc ça, c'était en 89. Voyons la diapo suivante. Alors là, on arrive en automne dernier. Alors là, il y a une observation par... Ah oui, alors je vais montrer une observation par... Alors ceci, bon, je vais raconter un petit peu l'histoire de cette occultation. Donc c'est une occultation, on peut la voir de la manière suivante. En fait, on cherche de manière permanente à savoir si des objets vont passer devant des étoiles. Pour ça, c'est un phénomène rare, donc il ne faut pas le manquer, mais il faut des gens pour prédire ces occultations. Et il se trouve que donc, l'an dernier, un astronome argentin, un astronome amateur argentin, a tracé, si vous voulez, la trajectoire apparente de Uranus dans le ciel, sur une carte du ciel, et a vu que le 8 septembre 2001, Uranus passait tout près d'une étoile Hipparcos, du catalogue Hipparcos, une étoile assez brillante de magnitude 7, donc presque visible à l'œil nu. Mais il a fallu que quelqu'un, si vous voulez, fasse cette prédiction et dise à la communauté, il va y avoir peut-être une occultation par Uranus ou éventuellement par les anneaux ou éventuellement par un de ces satellites. Donc la communauté ensuite envoie des messages, il y a des associations qui envoient des courriers électroniques, et puis la chose se met en marche, et puis on essaie de voir si cet événement est confirmé ou infirmé à mesure que le temps avance, donc faire des prédictions de plus en plus fines. Alors les prédictions de plus en plus fines ont finalement montré que l'étoile ratée Uranus... Ça, c'est assez facile, puisqu'il n'y a pas besoin d'une grosse précision. Il y a quelques secondes d'arc, là. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement actuellement. Par contre, en fait, on s'est aperçu que l'étoile passait... Enfin, cet astronome, si vous voulez, amateur argentin, s'est aperçu que l'étoile passait presque derrière Titania, qui est ce petit point noir, ici, qui fait 0,1 seconde d'arc de diamètre, vous voyez. Alors, vous avez Miranda et Umbriel, qui sont d'autres satellites. Alors, Titania est le plus gros des satellites d'Uranus. Mais même, il est à plus de 3 milliards, il est presque à 3 milliards de kilomètres, donc il fait à peu près 1600 kilomètres de diamètre, donc un peu plus petit que notre Lune à nous. Mais il est en fait angulairement très très petit, 0,1 seconde d'arc, parce qu'il est à presque 3 milliards de kilomètres. Donc à ce moment-là, c'est mis en branle tout un système donc, d'interaction entre des gens qui font des prédictions, donc des astrométristes qui suivent Uranus dans le ciel et qui disent ben, Uranus est à tel endroit, et d'autres gens qui disent ben, l'étoile est à tel endroit. Et petit à petit, on essaye de savoir si l'étoile va finalement passer ou pas derrière ce satellite. Alors, vous voyez que c'est une partie de cache-cache où on a toutes les chances de perdre, puisqu'en fait, un satellite de 0,1 seconde d'arc qui passe derrière, devant une étoile de magnitude 7, c'est très rare. On peut calculer que la probabilité, la fréquence, c'est toutes les quelques milliers, c'est tous les 5000 ans, disons, à peu près. Hein. Donc, on a mis beaucoup d'efforts pour pouvoir prédire cet événement. Donc, il y a des gens à Bordeaux qui ont fait des mesures astrométriques pour dire ben, le satellite à tel endroit, à telle orbite, donc le calcul doit être ça, des gens en Californie qui ont fait des mesures indépendantes, des gens en Arizona qui ont fait des mesures indépendantes. Et cet événement, petit à petit, s'est confirmé et donc a permis de montrer que l'occultation aurait lieu sur une bande de 1600 km sur Terre. Donc à partir de ce moment-là, on s'est posé la question suivante. Est-ce que Titania est l'atmosphère? Alors si vous regardez... Triton. Alors Triton est un satellite de Neptune qui fait à peu près, qui est un peu plus gros que Titania, qui a une atmosphère de 15 microbars, très facilement détectable par occultation. Et Pluton est un à peine plus gros que Titania, il fait à peu près 30% de plus, et lui a aussi une atmosphère. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est en prenant des corps de plus en plus petits, est-ce qu'on a toujours une atmosphère ou pas? Alors, c'est une occasion unique, puisqu'en fait, on peut recommencer ça dans 5000 ans, lors de la prochaine occultation. Également, la sonde Voyager était passée près de Titania en 86, mais n'avait pas fait de mesure spécifique pour détecter ou non une atmosphère. Donc, il faudrait entendre une autre mission spatiale qui prendrait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour arriver. Donc, il s'agissait vraiment d'un événement à ne pas manquer. Et ici, je vais vous montrer un exemple d'occultation par Pluton qui a été observé en 88. On a découvert dans les années 80 une atmosphère à Pluton. Donc ici, vous avez le signal de l'étoile en fonction du temps. C'est une équipe américaine qui a fait cette observation depuis un avion à très haute altitude, à 20 km, un avion qui observait dans l'infrarouge. Et l'étoile a disparu, mais pas de manière brutale, vous voyez, derrière Pluton. Donc là, l'étoile a touché... guillemets, le sol de Pluton, donc a disparu ici. Mais pendant toute cette période, c'est-à-dire 10, 20 secondes, vous avez ici 50 secondes, l'étoile a disparu progressivement, ce qui montre l'existence d'une atmosphère de l'ordre de 20 microbars. Donc je rappelle que le microbar, c'est le millionième de bar. Donc 20 millionièmes d'atmosphère terrestre au point de vue de la pression. Donc ça, c'est pour Pluton. Donc ça, on le savait dans les années, on l'a su grâce aux occultations dans les années 80. Et en 1997, notre groupe a pu observer en Australie une occultation par Triton. Donc, il y avait des amateurs qui attendaient des gens de notre groupe en Australie. Il y a des Américains qui observaient ici. On savait que Triton, grâce à Voyager, on savait que Triton avait une atmosphère. Il y a eu très peu d'occultations depuis la Terre observées par Triton. Et on a observé donc, cette occultation. D'une part, depuis l'Australie, découverte par Voyager, et d'autre part, elle varie au cours du temps, c'est-à-dire qu'elle est en train actuellement d'augmenter en pression. Donc ça, c'était pour Triton, pour Pluton. Donc, on va savoir si Titania, qui est à peine plus petit, avait une atmosphère. Ceci, c'est une image de Titania prise par Voyager en 86, la sonde Voyager, donc 1600 km de diamètre, et une atmosphère de quelques microbars, en fait, serait absolument invisible sur une image telle que celle-ci. On ne peut pas détecter par l'énergie directe, on ne peut pas détecter une atmosphère aussi ténue. Il faut utiliser un phénomène d'occultation. Alors voici des courbes théoriques que j'avais calculées avant l'occultation par Titania, en disant qu'est-ce qui se passe si Titania a une atmosphère d'azote, par exemple, d'un microbar, il se passerait ça. Donc vous voyez, un petit peu comme pour Pluton, que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si on a 0,1 microbar, donc vous voyez une baisse pendant 10 secondes. Donc on a estimé qu'on pouvait détecter une atmosphère, si elle existait autour de Titania, jusqu'à une limite de 0,1 microbar ou même un peu moins, donc 10-7 à 10-8 bar. Alors voici la trajectoire finale donc, de l'ombre de Titania sur le sol, toutes les minutes ici. Donc c'est passé sur l'Europe, ici, ensuite sur Madère, Açores, et ensuite c'est arrivé donc, dans les Caraïbes, Venezuela, Colombie et Équateur. Donc, il y avait un groupe de l'Observatoire de Paris avec des astronomes français, un astronome allemand, on est allé en Équateur. Un autre astronome de l'Observatoire de Paris est allé à Aruba, ici dans les Caraïbes. Il y avait des observateurs au Pic du Midi, de très nombreux amateurs au Portugal, en France, en Espagne, et puis des professionnels aux Açores et à Madère. Et puis, vous voyez un grand vide qui est la Colombie, ici, où personne n'est allé, en fait, à cause des problèmes de sécurité dans ce pays. Alors voici, par exemple, jusqu'il y a à peu près une dizaine de jours, l'ensemble des stations pour lequel j'ai pu avoir des comptes rendus, donc des gens qui ont observé cette occultation par Titania. Donc certains étaient en dehors de l'ombre, d'autres en dedans. Donc chacun a coupé l'ombre de Titania à un endroit légèrement différent. Et idem pour l'Amérique du Sud. Donc il y a eu une grosse mobilisation, en particulier d'amateurs. Donc tous, beaucoup de ces étoiles que vous voyez ici sont en fait des observations faites par des amateurs. Donc chacun a reconstitué une corde d'occultation. Alors voici par exemple un exemple d'occultation qu'on a obtenu en Équateur. Donc ici c'est le temps en secondes, et le signal de l'étoile. Donc on acquiert sur une image CCD tous les cinquièmes de seconde, donc en mode cinéma. Et puis ceci c'est le signal de l'étoile reconstitué et l'étoile a disparu, vous voyez, pendant 59,8 secondes derrière Titania. Et donc cette corde, ce qu'on appelle la corde, permet d'avoir la longueur de la durée de l'événement permet d'avoir la longueur de la corde au niveau où nous on l'a observé. Alors ceci a été fait par donc un groupe d'observateurs amateurs et professionnels, mais avec un télescope et une caméra qui était fournie par des amateurs. Et une fois qu'on a reconstitué toutes ces cordes, on a pu reconstituer la forme de Titania. Donc ici, vous avez les observateurs donc, aux Caraïbes, ici au Venezuela, ici vous avez les observateurs en France. Donc il y a eu de tout, il y a des gens qui observaient sur des caméras, il y a des gens qui observaient avec un chronomètre, des gens qui observaient vaguement avec une montre. Et puis ici, vous avez Portugal, Espagne, et puis quelque part l'Équateur qui est ici. Donc vous voyez en fait qu'on peut reconstituer et on retrouve en fait le profil, on retrouve le diamètre de Titania à un kilomètre près par rapport au diamètre donné par les images Voyager. Donc ça montre la puissance, si vous voulez, de cette méthode. Et non seulement on retrouve à un kilomètre près, donc ça veut dire que le trait jaune ici, que vous voyez, ce trait jaune est le rayon prévu d'après les images obtenues par la sonde Voyager en 1986. Et ces traits, ce sont les cordes obtenues depuis la Terre. Mais avec un coût, si vous voulez, à peu près 10 000 ou 100 000 fois plus faible qu'une sonde spatiale, évidemment. Alors évidemment, il faut attendre qu'une occultation se produise, et par une étoile si brillante, c'est évidemment extrêmement rare. Ceci, c'est l'équateur de Titania, et donc vous avez ces cordes ici. Alors, au point de vue de la détection d'atmosphère, alors, bon, sans entrer dans les détails, là, de nouveau, vous avez le temps, enfin, vous avez le rayon, si vous voulez, donc on a ramené ça à un rayon de... par rapport au centre de Titania, ça c'est le signal qui est dilaté verticalement, donc ce bruit là que vous voyez est un bruit faible, mais qui est dilaté par l'échelle. Et puis on a différents modèles d'atmosphère, donc 0,1 microbar, vous voyez qu'on peut détecter des atmosphères qui sont en gros inférieures à 0,03 microbar. Donc si le satellite n'a aucune atmosphère, le signal devrait être carré, comme ceci. Alors ceci c'est du bruit dû à l'instrument, au bruit de photons, etc., à l'atmosphère de la Terre. Et vous voyez que, en fait, notre méthode, en particulier avec les données obtenues en Équateur, permet d'avoir une limite sur l'atmosphère de Titania qui est inférieure à 0,03 microbar, donc 3·10⁸ bar, donc quelques milliardièmes de bar. Vous voyez la puissance de cette méthode. Alors, donc, c'est une atmosphère qui, si elle existe, en tout état de cause, est beaucoup plus faible que celle de Pluton et de Triton. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des corps qui sont de masse et de rayons comparables. Bon, pourquoi Triton a une atmosphère et pas Titania? Alors, Titania est plus près du Soleil que Triton, donc plus chaud. Donc, après, on peut discuter, si vous voulez, au point de vue théorique, des problématiques de cette atmosphère. Alors là, je vais vous montrer, pour terminer, dans les 5 prochaines minutes, donc l'expédition en Équateur. Nous avons installé donc des stations près du Cayambe, qui est un volcan, qui est exactement sur la ligne de l'équateur, qui est à 5700 mètres, donc il y a de la neige. Donc c'est le seul endroit au monde où la ligne de l'équateur coupe physiquement la neige, c'est-à-dire passe sur de la neige. Si vous voulez, le Kilimandjaro, c'est à peu près à 3 degrés de latitude sud, et d'autres montagnes sont près de l'équateur, mais pas sur l'équateur. Donc c'est le seul endroit au monde, la ligne de l'équateur passe à peu près ici. Donc on avait installé un télescope portable dans cette région. Bon, après, on a dû partir à cause du mauvais temps, mais ça, c'est autre chose. Ceci, c'est le Chimborazo. On voulait également installer une station, mais c'était trop haut. Le refuge était à 5000 mètres d'altitude. Et en plus, il y avait une éruption volcanique d'un autre volcan à une cinquantaine de kilomètres qui jeter des cendres sur le Chimborazo, donc ce n'était pas très conseillé pour installer des petits télescopes. Et le Chimborazo, en fait, est presque sur l'équateur également, et c'est en fait la montagne la plus haute du monde, au sens où c'est la montagne la plus loin du centre de la Terre, à cause de l'aplatissement de la Terre. Si vous avez le rayon de la Terre en fonction de la latitude ici, donc il y a une vingtaine de kilomètres entre le pôle et l'équateur de la Terre, point de vue différence. Le pôle a un rayon 20 km plus faible que le rayon équatorial de la Terre. Et le Chimborazo a 6310 mètres et l'Everest 8850 mètres, ce qui fait que le sommet du Chimborazo est plus loin du centre de la Terre d'à peu près 2100 mètres par rapport à l'Everest. Donc le Chimborazo est le point le plus proche, comme dit le prospectus, le plus proche du Soleil, le plus proche des étoiles sur la Terre, ou disons de manière plus raisonnable, c'est le point de la Terre le plus éloigné du centre de la Terre. Donc en particulier également, c'est le point de la Terre où la gravité est la plus faible. Alors, en fait, il faut dire que cette expédition a été faite en souvenir également d'une expédition, autre expédition française qui avait été faite au 17e, au 18e siècle par un groupe d'académiciens français où il y avait la Condamine, Jussieu, et la Condamine, Jussieu, Bouguet, Gaudin, sont allés en Équateur pour mesurer le rayon de la Terre à l'Équateur par des mesures trigonométriques, enfin, de triangulation. Et cette mesure avait été faite en Équateur par cette équipe, donc, qui restait une dizaine d'années en Équateur, par une équipe à 45 degrés latitude en France, donc, et une équipe en Laponie, ici. Et ces trois équipes ont essayé de déterminer le rayon de la Terre à différentes latitudes et montrer finalement que la Terre était aplatie, donc que le rayon polaire est une vingtaine de kilomètres plus faible que le rayon équatorial. Et en fait, lorsque j'ai eu l'annonce de cette occultation par Titania, je venais terminer un livre qui s'appelle « Le procès des étoiles », qui racontait l'expédition française donc de 1735 à 1745 en Équateur. Et donc on a retrouvé... Ah ben c'est mort, hein, c'est bon. J'ai réussi à épuiser ma pile. Hein. On a retrouvé des traces, d'une part, on a retrouvé l'édition originale du compte-rendu de la Condamine, là-bas, et également des statues et autres monuments à la gloire de ces astronomes français qui sont restés là-bas 10 ans. Alors, notre expédition a duré au plus 3 semaines, hein, pour eux c'était beaucoup plus long. Alors, donc là, je vais vous indiquer simplement pour terminer un petit peu comment se passe ce type d'expédition et qu'est-ce qu'on fait lors de ces expéditions. Alors, ceci, c'est Quito, avec un observatoire qui se trouve dans ce parc ici, au centre-ville, un petit peu comme ben, d'Enfer Rochereau dans Paris. Donc là, vous avez un télescope de 25 cm, un réfracteur, un petit peu comme la lunette Arago, un peu plus petit. Et ça, c'est près d'une colline au-dessus de Quito. Donc on a installé un instrument, une caméra ici, sur le réfracteur de 25 cm, pour observer le phénomène qui était visible d'Équateur. Alors, diapo suivante. Voici l'observatoire de Quito, donc où il y a le télescope, le réfracteur de 25 cm ici, plus d'autres instruments, ici il y a une méridienne, ici il y a un autre instrument, et l'intérieur, où il y a en particulier une très belle collection de livres anciens, dont en particulier l'édition originale de la compte-rendu de la Condamine de 1752, dont un exemplaire a été donné à l'observatoire de Quito. Alors, cet observatoire a été construit en fin du 19e siècle, en 1873, et on y a installé un réfracteur allemand qui a été donc installé sur cette coupole-là. Mais bon, il y a des ouvrages beaucoup plus anciens dans la bibliothèque à l'intérieur. Alors, diapo suivante. Donc, le réfracteur est à l'intérieur ici. Donc, vous avez une fente qui s'ouvre et on a installé donc notre instrument derrière ce réfracteur. Et ensuite, on a transporté des télescopes portables, donc des types Celestron et MID. On avait 3 télescopes, dont 2 avaient été prêtés par des astronomes amateurs équatoriens à travers le pays pour observer le phénomène depuis différents endroits. Alors, diapo suivante. Voici donc le Parlement équatorien à côté de l'observatoire, un endroit où j'étais attaqué par des voleurs lors d'une ascension ici, qui voulaient nous tirer une balle à la tête avec mon ami équatorien. Donc on a été attaché à un arbre quelque part ici, là-haut. Dépouillé dans notre sac à dos, appareil photo et quelques dollars qu'on avait en poche. Donc l'expédition a failli se terminer ici, dans ces bois là-haut. puisqu'on nous a entraînés dans une forêt attachés à un arbre et on voulait nous descendre une balle dans la tête, hein, basiquement. La diapo suivante. Alors, ceci est un volcan, oui. Bon, c'était un volcan, en fait. C'est un volcan qui est au-dessus de Quito, qui est rentré en éruption il y a 2 ans. Donc, il y a une photo extrêmement impressionnante. On ne voit pas le cratère directement du volcan, puisqu'il est sur un plateau derrière, mais on voit un énorme nuage de poussière, un petit peu comme un champignon atomique au-dessus de la ville de Quito, à la fin 99. Alors, voici là, donc, le réfracteur Mertz de 25 cm, où on a installé notre instrument ici. Et puis, les étudiants donc, de DEA de l'Université de Quito ont fait un petit moteur à vitesse variable, puisqu'en fait, avant, il y avait un système d'horlogerie, donc qui ne marchait pas très régulièrement ici. Donc, leur stage de DEA a été de faire un moteur à pas variable qui permette, avec un variateur, de suivre, de suivre les étoiles. Alors, ça a bien marché. Ils ont tout huilé, les étudiants également ont tout huilé les mécanismes. Donc, c'est une très belle lunette qui a pu être remise en fonctionnement pour cet événement. Alors, diapo suivante. C'est une lunette méridienne, toujours à l'observatoire de Quito. Donc, magnifique, vous voyez, avec les cuivres, les bois derrière, qui, évidemment, ne sont pas vraiment opérationnels actuellement. En fait, c'est petit à petit en train de se transformer en musée, sachant que l'Équateur voudrait construire un télescope plus gros de la classe de 1 mètre sur l'Altiplano au nord de Quito, entre Quito et la Colombie. Alors, diapo suivante. Voici le groupe. Alors, donc, il y a plusieurs. Donc, un astronome allemand, des astronomes français, vous reconnaissez des collègues de l'Observatoire de Paris, François Collat, Sylvain Pau, un collègue de la Cité des Sciences, de la Villette, qui avait un télescope, qui est venu avec nous également, et puis des étudiants équatoriens qui sont ici. Alors, diapo suivante. Donc voici les télescopes portables, donc des MID de 20 et 25 cm, et puis un Celestron qui a été apporté de France, un 20 cm qui appartient à François Collat, avec les caméras, les alimentations, etc., qui sont, vous voyez la caméra, alimentation, diapo suivante. Alors ceci, c'est dans l'observatoire, diapo suivante. Donc ces caméras, vous en voyez un exemplaire ici, cette caméra dite Odin, est en fait pilotée par des PC. Donc, on installe notre manip sur le télescope. Cette manip est reliée au PC qui fait l'acquisition, le pilotage d'une part de la caméra et d'autre part l'acquisition sur le disque dur de la caméra. Donc, vous voyez ici, vous avez Sylvain Pau, l'Observatoire de Paris-Meudon, et puis François Collat, qui est ici, l'Observatoire de Paris, dans les bureaux de l'Observatoire de Quito, en train d'organiser notre manip, enfin nos manips plutôt. Alors, diapo suivante. Alors ceci, c'est la mise en station du Celestron. Alors ici, on pointait Vénus pour voir si l'orientation, en particulier, on est sur l'équateur, donc que l'axe polaire du Celestron est quasiment couché à 0 degré, hein, on est très proche de l'équateur, on est une trentaine de kilomètres de la ligne équatoriale ici. Et donc là, on mettait en station et on retrouvait en fait Vénus pour voir si notre télescope était bien positionné. À la diapo suivante. Donc voici le télescope avec le pointage. Alors Vénus doit être quelque part dans le ciel ici. Il faut dire qu'à Quito, jusqu'en début septembre, c'est la saison sèche, donc un ciel très clair, et qu'entre septembre et octobre, les nuages arrivent, c'est la mousson, la saison humide, et que l'événement avait lieu le 8 septembre, donc on ne savait pas si la mousson arriverait un peu avant ou un peu après l'événement. Mais là, c'était à peu près une semaine, un peu moins avant, donc c'était toujours très beau. Alors, diapo suivante. Donc voici le télescope monté, le MID, donc vous avez des raquettes de pilotage. Ce sont des télescopes amateurs, hein, je souligne, ce ne sont pas des télescopes de la gamme amateur, c'est-à-dire qu'on peut acheter en série, avec en particulier quelque chose de très agréable, c'est le pointage par raquette automatique ici. Et donc vous pouvez positionner le télescope en monture altazimutale sur 3 étoiles connues, par exemple Antares, Altaïr et puis Vega, et ensuite le télescope se retrouve tout seul et vous pouvez lui dire de pointer Uranus ou Mars, et le télescope va tout seul. Il a intégré, si vous voulez, en mémoire les éphémérides des planètes et donc permet de suivre sans se fatiguer et sans en particulier bouger les axes avec les mains. Donc vous avez la caméra ici, le pilotage par le PC. Et ici, c'est Wolfgang Basker, donc il y a un amateur allemand qui est venu avec nous, qui en fait a construit le système de caméra et a mis en place le logiciel d'acquisition de cette caméra sur le PC, et la caméra qu'on voit ici, donc qui est venu avec nous et qui est quasiment un professionnel en fait, hein, puisqu'il n'est pas, pas professionnel au sens administratif du terme, mais c'est lui qui a apporté les logiciels et les caméras pour observer l'événement. Alors, diapo suivante. Donc la mise en station, alors ceci c'est dans une hacienda du 16e siècle, qui a été construite en 1500 et quelques, 1530 à peu près, donc très peu de temps après la découverte de l'Amérique par des Espagnols qui l'ont construite, cette hacienda, sur un ancien temple inca. Et nous avons dormi, en fait, c'est transformé en hôtel, mais c'est resté en l'état, si on peut dire. Et on a dormi là. Et en fait, l'expédition de la Condamine, Jussieu, etc., Bouguer, avait dormi également là, en 1735. Donc, en 1735, l'hacienda avait déjà 200 ans. Donc, s'ils sont revenus en France, ils ont dit on a dormi dans une hacienda qui était très vieille, qui avait 200 ans. Mais on a redormi, si vous voulez, 250 ans plus tard, dans le même endroit. Et donc, c'était un moment assez émotionnant, puisqu'en fait, c'est là où l'expédition française du 18e siècle avait commencé ses mesures. Ils étaient partis de l'équateur, cette hacienda est à peu près à 2 km de la ligne équatoriale. Ils avaient dormi là, ils avaient commencé leurs mesures, et ils étaient descendus depuis cette ligne équatoriale d'à peu près 300 km vers le sud pour mesurer un arc de méridien terrestre et donc ensuite déduire le rayon de la Terre. Donc c'était les premiers, si vous voulez, les premières manips qu'ils ont faites, ont été faites à partir de cet endroit-là qui est à quelques kilomètres de la ligne équatoriale. Donc ici, on met en station, on met les télescopes, les caméras, les ordinateurs, etc., en marche pour faire des tests. Ça, c'était quelques jours avant. Diapo suivante. Bon, autre test hein, sur le Célestron par François Collat, qui avait amené son Célestron et également une caméra de l'Observatoire de Paris. Diapo suivante. Alors ça, c'est le choix. Sur une grande carte d'Équateur, ça va, on veut aller. Là, si vous avez les îles Galapagos, et puis on avait une grande carte, il fallait choisir selon la météo, donc ce sont des manips extrêmement interactives où il faut choisir au dernier moment où aller, se déplacer en voiture pour de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres pour choisir un endroit où il n'y a pas de nuages. Alors ici c'est toute la partie équatoriale de l'équateur, donc très humide et nuageuse, ensuite à gauche la partie côtière, donc assez tropicale également, et puis qui traverse l'équateur, la zone andine, si vous voulez, qui a 3000, 4000 ou plus mètres, sur lequel on est resté, qui est beaucoup plus aride. Alors, diapo suivante. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la lourdeur, quand même, ces manips. Hein. On ne peut pas faire ça avec une balisette. Donc, ça, c'est sur les différents télescopes, trépieds, caméras, etc., qu'on a transportés par des véhicules 4x4, prêtés soit par l'ambassade de France, soit par des amateurs équatoriens fortunés. Diapo suivante. Alors ça, c'est le premier site qu'on était allé voir, le Chimborazo, donc le point le plus éloigné du centre de la Terre, est ici, à 6300 mètres. Et ici, vous avez un refuge qui est à 4900 mètres et un autre refuge qui est par là, qui est à 5000 mètres d'altitude. Malheureusement, donc, comme je vous ai dit, d'une part, il y avait une éruption volcanique à 50 km à droite qui projetait des cendres sur le Chimborazo. D'autre part, on était à 5000 mètres et je me suis rapidement aperçu qu'à 5000 mètres, pour taper sur un écran, sur un clavier d'ordinateur par moins 10 la nuit, avec des grosses moufles, avec un générateur de courant qui marche 3 heures par jour, et tout ça avec de la poussière qui vole dans tous les sens, c'était peut-être pas la meilleure idée pour observer une occultation par Titania qui a lieu tous les 5000 ans. Et donc, en fait... Bon, je me suis promené dans ce parc-là, mais on n'a pas installé, finalement, pour des raisons de logistique, si vous voulez, on n'a pas installé de télescope à cet endroit-là. La diapo suivante. Voici le refuge, le premier refuge, donc qui est à 4900 mètres d'altitude, où on peut arriver en voiture. Et puis ensuite, on monte à pied, diapo suivante. On monte à pied, donc, et puis on voit un autre refuge qui est un peu plus haut, qui est par là, qui est à 5000 mètres d'altitude, diapo suivante. Donc, ceci, c'est au pied à cet endroit du refuge où on voit donc, le sommet de Chimborazo. Et puis, donc, quelque chose qui est assez difficile à mettre en place au point de vue de la logistique pure d'observation. Alors, la voie normale est par là, on remonte à gauche. Pour ceux qui veulent aller se promener là-bas, diapo suivante. Voilà le refuge Whymper, d'ailleurs, où il n'y a pas du tout de courant. Là, par contre, il fallait apporter les batteries, ce qui n'était pas très pratique. Alors, ceci dit, il y a eu une expédition française qui est allée en l'an 2000 sur le Chimborazo, qui s'appelait Chimborazo 2000, une équipe de l'IRD et de météorologues, dont certains sont en demeure français, sont en demeure en Équateur, qui ont fait des carottages de la glace du Chimborazo pour paléoclimat, et donc qui ont creusé des carottes glaciaires, des carottes dans le glacier du Chimborazo, pour reconstituer à travers donc, les bulles d'air qui sont emprisonnées dans les glaces du Chimborazo, pour reconstituer le climat sur plusieurs centaines ou milliers d'années. Donc, j'ai discuté avec l'un d'entre eux qui était météorologue et guide un peu de l'expédition, et qui m'a dit, mais il n'y a pas aucun problème, tu vas là-bas, tu t'installes un refuge, tu mets ton télescope. Nous, on est montés pour faire nos carottages à 6000 mètres, on n'a eu aucun problème avec nos perforatrices. Bon, je me suis aperçu quand même qu'en arrivant là-haut, ce n'était pas si facile qu'il avait l'air de dire. En particulier si on veut faire des manips très fines et en particulier si on ne veut pas manquer, si vous voulez, l'événement. Si vous manquez une heure ou deux de carottage, c'est pas grave. Si vous manquez une heure ou deux d'observation, mais elle est terminée. Donc cette idée, bien que assez attrayante, a été finalement abandonnée. La diapo suivante. Alors, deuxième site, c'était donc le pied du Chimborazo, ce volcan donc, sur lequel passe la ligne équatoriale et au pied duquel se trouve cette fameuse hacienda dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc du 16e siècle, qui est en fait un endroit où on voulait installer un autre télescope, un des télescopes portables. Alors, diapo suivante. Donc ici, on voit l'équateur qui passe, la ligne équatoriale qui passe ici et qui va derrière sur l'équateur. C'est M. Salazar qui nous a beaucoup aidé à transporter le matériel, qui était le concierge de l'observatoire de Quito, qui nous a amené dans plein d'endroits pour d'une part prospecter, d'autre part transporter le matériel. En diapo suivante. Donc ça, c'est l'endroit, vous voyez, il y a plusieurs monuments en Équateur, latitude 00, donc c'est près de cette hacienda où les Français du 18e siècle avaient commencé leurs mesures. En diapo suivante. Donc voici l'hacienda le jour, construite sur un temple inca par les Espagnols et où donc avait séjourné la Condamine et autres bouguets. En diapo suivante. Donc ici vous avez les chambres tout autour, avec un monument inca au centre ici, une petite statuette inca. Et donc on avait installé un des télescopes ici. En diapo suivante. Réfectoire. Diapo suivante. Alors voici la Condamine. Alors il y a beaucoup de statues de la Condamine, Bouguer, etc. en Équateur, puisqu'ils ont laissé pas mal de souvenirs. En particulier, il y a un monument près de Quito, qui n'est pas très loin de l'Hacienda d'ailleurs, qui est à une trentaine de kilomètres en nord de Quito. Là où passe la ligne équatoriale, vous avez donc l'ensemble des bustes de l'expédition, des membres de l'expédition française. En diapo suivante. Vous avez Joseph de Jussieu, qui était un botaniste, qui est un médecin qui a accompagné l'expédition, qui a fait énormément de relevés de plantes, animaux, et qui avait découvert ou redécouvert la quinine lors de son séjour en Équateur. Vous avez le monument sur lequel passe la ligne équatoriale derrière, ici. Donc E, c'est comme Est. Et tout le monde doit se faire photographier, évidemment, avec la ligne équatoriale qui passe au milieu. T'es pas sûr ? Donc vous avez les touristes qui ont les pieds sur les deux hémisphères pour dire j'étais dans les deux hémisphères à la fois. Alors, diapo suivante. Alors, ceci, c'est donc toujours sur la ligne équatoriale, mais un peu plus haut, près de cette hacienda. Et en fait, l'expédition française avait commencé ses premières mesures du méridien ici, en haut de cette montagne qu'on appelle la montagne des Français. Vous avez installé des mires pour faire ensuite des relevés de triangulation. Et ensuite, ils étaient descendus vers le sud, vers Cuenca, 300 km, pour mesurer l'arc. Alors, ils installaient des piquets là-haut qui étaient immédiatement volés par les Indiens, qui pensaient que c'était des gens qui venaient mettre des piquets pour construire un fil de fer barbelé ou du moins mettre les limites d'une hacienda. Donc, ils pensaient en fait que ces gens-là venaient pour marquer le terrain. Donc, à mesure que les gens repartaient pour faire une mesure 30 km plus loin avec leurs lunettes, les piquets partaient. Donc, ils devaient refaire une journée et demie de marche pour revenir planter les piquets et puis laisser quelqu'un en demeure pour surveiller ces piquets. Alors, diapo suivante. Alors, ensuite, le temps s'est couvert à cet endroit-là, près du Cayambe, donc on a dû tous remonter petit à petit vers le nord, à savoir vers la frontière colombienne, pour avoir la dernière poche de beau temps qui se réduisait à mesure que la mousson arrivait. Donc vous voyez, ceci c'était un jour et demi avant l'occultation, et c'était la dernière zone en équateur qui restait à peu près dégagée. Donc diapo suivante. Donc, on est arrivé dans une vallée qui s'appelle la vallée du Chota, qui est à peu près à 30 km de la frontière colombienne. Qui a un microclimat relativement sec et qui est la dernière à se couvrir lorsque la mousson arrive. Donc ceci est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Diapo suivante. Donc il y a des cultures de canne à sucre grâce à la rivière qui passe en bas, donc qui permet d'irriguer bien que ça soit assez sec. Diapo suivante. Voici le village Salinas. Nous avons établi nos campements finalement. Et puis, diapo suivante, où il y a une station de train, en fait, qui fait la ligne Salinas-Pacifique, qui est à peu près à 150 km, avec un autorail monté sur des roues. Enfin, un autobus, pardon, monté sur des roues de train. Diapo suivante. Et on est parti dans la campagne, observé dans un endroit qui s'appelle une petite hacienda, qu'on voit sur diapo suivante, je pense. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on a observé finalement à quelques kilomètres de ce village, un endroit où il a fait finalement beau pour le soir d'observation. Donc, ce sont les véhicules qu'on a utilisés pour transporter notre matériel. Diapo suivante. Donc, mise en station de nouveau. Diapo suivante. Réglage des logiciels, etc. L'interface avec les télescopes et les caméras. Diapo suivante. Voilà, orientation, équilibrage. Bon, là, on met à la terre pour pas qu'il y ait de l'électricité statique. Diapo suivante. Voilà, puis la nuit tombe, et donc on a observé cette nuit-là, cette occultation qui est passée finalement en Europe, Atlantique, et finalement le dernier pays à visiter, c'était l'Équateur, qu'on a observé depuis cet endroit-là. Diapo suivante, je pense qu'il y en a encore une. Donc, ça, c'est juste après l'occultation, donc avec des amateurs équatoriens, puis l'équipe Paris, plus l'équipe allemande, puis le télescope derrière. Diapo, je pense qu'il y en a encore une, peut-être. Voilà, et ça, c'est le lendemain. Voilà, donc c'est la mousson qui est arrivée. Et donc, vous voyez qu'on a eu les dernières heures de beau temps pour observer ce phénomène. Mais avec de très bonnes données, puisqu'en fait, on a eu un temps dégagé. Donc ça, c'est le Cayambe, sous les nuages, sous les premières neiges qui arrivent donc depuis l'Amazonie. Bien, merci. Non.
Non.
Non, je l'ai regardé, c'est pour ça.
Ah, d'accord. Bon, merci Bruno pour cette merveilleuse aventure scientifique que tu nous as racontée. Il est un petit peu tard. Donc on va être assez court sur les questions, je pense qu'il y en a quand même. Donc s'il y a des questions, je vais essayer de se poser des petites pistes et je dois normalement vous tendre cette
lumière. Il y a une lumière rouge.
Non, il n'y a rien.
Il n'a pas appuyé sur le bouton, c'est la lumière rouge là.
Mais je n'ai pas éteint.
Ah. Il y a une lumière rouge, c'est bon.
Non, c'est un petit coup.
Bon bah là, c'est bon.
Il y a vite des questions.
Oui, alors on a fait ça une fois avec une étoile très brillante. Le problème de l'analyse spectrale, c'est qu'elle disperse le signal. Donc on n'a en général pas assez de photons. Et donc si en plus on le disperse dans un spectre, on a encore moins de photons par élément spectral. Donc on l'a fait une fois il y a 2 ans au Chili avec le télescope, le Very Large Telescope, VLT au Chili, le 8 mètres. C'est une occultation par l'atmosphère de Jupiter. Et c'est une étoile relativement brillante qui avait une magnitude de 10 par là. Et avec le VLT, donc au Chili, un télescope de 8 mètres, on a pu faire le spectre de l'étoile à mesure qu'elle disparaissait dans l'atmosphère de Jupiter autour de ce qu'on appelle les bandes du méthane, à 2 microns 2. Et donc ça nous a permis de détecter d'une part le méthane et de voir le profil du méthane à mesure que l'étoile descendait dans l'atmosphère. Et c'est exceptionnel puisque ça demande en fait beaucoup de photons. Et en général, on préfère faire les observations en bande large pour avoir le plus de photons possible. Mais en fait, ça va arriver de plus en plus à mesure que les télescopes augmentent en taille et à mesure que les récepteurs sont plus sensibles aussi. Pour l'instant, ça reste relativement rare, mais on peut espérer que on puisse observer d'autres occultations avec une information spectrale pour avoir, dans ce cas précis, pour détecter par exemple le métal. Alors, le flash central est dû au fait que l'atmosphère agit comme une lentille et va focaliser le signal au centre de l'ombre. Alors, il faut passer. Alors, si l'optique était parfaite et si la lentille était parfaite, ce sera un point de taille nulle. Bon, en fait, la planète n'est pas complètement sphérique, elle est un petit peu aplatie. Donc, cette tâche, si vous prenez faites expérience avec une lentille, vous focalisez un objet à l'infini, vous aurez un petit point lumineux. Et si la lentille n'est pas très bonne, ce point lumineux va s'empâter, va s'agrandir, va former ce qu'on appelle le caustique. Et en fait, pour pouvoir observer le flash central, il faut passer à l'intérieur de cette tâche. Cette tâche, typiquement, fait 50 km sur le sol, 100 km, ça dépend de la taille de la planète, de l'aplatissement de la planète, etc. Alors, pour Titan, cette tâche, cette focalisation, se faisait dans une zone qui faisait à peu près 50 km. Peut-être un peu plus, sur une centaine de kilomètres, en gros, on pouvait voir une remontée de signal. Et si on est toujours à l'intérieur de l'ombre de la planète, mais à l'extérieur de cette tâche, on ne voit plus rien. On voit simplement l'occultation classique, à savoir disparition et réapparition de l'image.
Merci. D'autres questions? Oui. Attendez, je vous passe le micro.
S'il vous plaît, en quelle année ont été faites les observations en Équateur?
En septembre. Quelles observations? Du 18e?
Les dernières observations que vous avez présentées.
En septembre 2001, il y a 3 mois, quoi. 4 mois. Hein. Celle des Français a été faite, géodésique, a été faite au 18e siècle, donc de 1735 à 1745 à peu près.
Et les prochaines occultations auront lieu quand?
Alors, il y en a une l'année prochaine, enfin cette année, en 2002, par Pluton, qu'on va essayer d'observer, qui serait observable peut-être d'Europe, peut-être d'Afrique, on ne sait pas encore, et peut-être du Brésil. Mais ça dépend encore de la trajectoire. Il faut affiner, si vous voulez, la prédiction pour savoir si ça va passer plutôt en Europe, plutôt en Afrique, ou plutôt au Brésil. Donc, c'est une autre occultation exceptionnelle qui va se produire cette année.
Est-ce qu'il y a eu d'autres observations, mais d'ailleurs, si on peut appeler ça comme ça?
D'ailleurs, de quoi?
C'est-à-dire au lieu que ça soit sur Pluton, mais admettons sur Sirius ou même sur d'autres.
Depuis la Terre, vous voulez dire? Par des gens ailleurs, vous voulez dire?
Non, mais des observations faites, ouais. Mais sur d'autres lieux.
D'autres lieux sur Terre?
Sur d'autres planètes,
Ah oui, d'accord. Des planètes extrasolaires, par exemple, ouais. Qui passent. Alors oui, il y a un cas qui est une planète qui passe régulièrement devant une étoile. On a découvert depuis 5-6 ans. Pas mal de planètes extrasolaires qui tournent autour d'étoiles par ce qu'on appelle mouvement radial. Donc un petit mouvement d'étoile trahit la présence d'une planète autour. Alors, en général, cette planète n'est pas dans le plan orbital de la planète n'intersecte pas l'étoile, mais il y a parmi cette trentaine ou quarantaine de planètes connues, il y en a une dont le plan orbital passe en face du disque de l'étoile. Donc tous les 4 jours, il y a une légère baisse de signal de l'étoile dû à cette planète. Mais comme l'étoile est très grosse et que la planète projetée sur l'étoile est toute petite, cette chute de signal est très faible, de 1 ou 2%. Alors, il y a eu récemment, pour cette planète en particulier, qui passe devant cette étoile, on a fait des spectres. Et on a fait la différence du spectre lorsqu'on observe l'étoile et du spectre lorsque l'étoile est un petit peu atténué par la planète. En faisant la différence des deux spectres, on espère trouver ce qui est dû à la planète, finalement. Et apparemment, on a trouvé, si je me souviens bien, du sodium.
Oui, du sodium, oui.
Dans l'atmosphère de cette planète.
Une planète qui est comparable à Jupiter, je crois.
Un peu plus chaud, je pense. C'est pour l'instant, alors, comme la baisse de signal est minime, c'est très difficile à détecter par spectroscopie quelque chose, puisqu'on fait la différence de signaux qui sont très grands. Donc, ce qu'on obtient à la fin est tout petit. Et d'après ce que j'ai compris, on a pu voir dans cette différence la présence de sodium. On peut espérer peut-être dans le futur avoir des informations spectrales sur d'autres planètes qui transitent devant le disque d'autres étoiles. Pour l'instant, c'est tout récent, c'est quelques jours. Hein, quelques...
Oui, un mois à peu près. C'est ça. Okay.
Alors, en France, c'était à peu près à 10 degrés sur l'horizon à Paris, et presque un peu moins de 15 degrés au pic du midi, par exemple. Donc, au pic du midi, ça a été observé avec un télescope de 1 mètre. Mais par contre, à 15 degrés l'horizon. Et en fait, la qualité de la courbe est un peu moins bonne que ce qu'on a pu avoir avec un 25 cm, mais quasiment au zénith. Donc l'intérêt de transporter les télescopes en équateur, c'est que l'événement était très proche du zénith, et donc peu sensible à la turbulence. Ceci dit, il y a eu beaucoup d'amateurs qui ne sont pas déplacés, évidemment, qui ont observé depuis le Portugal, ou l'Espagne, ou la France, et qui ont quand même contribué à reconstituer la corbe, donc reconstituer la forme de Titania. Par contre, en ce qui concerne la détection de l'atmosphère, on a besoin d'un signal très stable avant et après. C'est là qu'on avait intérêt à être à un endroit très clair et surtout avec une étoile très haut dans l'horizon pour détecter l'atmosphère. On n'a pas eu d'information cruciale en termes de la corde, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres. Par contre, c'est là, en équateur, qu'on a la limite supérieure la plus fine sur la détection de l'atmosphère. Ce n'est pas au pic du midi où là on était à trop bas sur l'horizon pour faire quelque chose de sensible. Bon, d'autre part, ce sont des expéditions relativement légères. Hein. Ça concernait 5 personnes avec un télescope. Donc, ce sont des budgets qui sont bien au-delà de n'importe quel budget spatial. Il y a un facteur 1000 ou 10 000 entre faire une manip comme ça et puis envoyer un satellite autour de la Terre pour observer. Donc, ce sont des manips relativement légères, même s'il faut transporter 60 kg de fret. Ça reste des choses qui restent légères, une science légère par rapport au but qu'on se fixe. Et comme, en fait, le seul moyen de savoir si Titania a une atmosphère, c'était cette occultation, bon, il y a eu un effort qui a été fait au point de vue financier, au point de vue travail, au point de vue prospective, au point de vue voyage, pour cette occultation en particulier.
Oui ?
Vous avez montré une image tout à l'heure de Jupiter, de Saturne, de
mais je ne suis pas sûr si pour les objets étendus, l'interférométrie peut apporter quelque chose. Hein. Ben, compris qu'on peut détecter des diamètres stellaires, des étoiles doubles très serrées, mais...
Il y aura aussi un problème de flux. Hein. Il faut quand même, on ne peut pas faire de l'interférométrie avec n'importe quelle source. Enfin, je ne sais pas, il faut combiner ces deux contraintes.
Bon, déjà, l'image que je vous ai montrée, c'est une image qui vient d'être obtenue à VLT. Donc ensuite, c'est des images qui ont été prises avec l'instrument tel qu'il a été livré. Donc ces images vont encore s'améliorer et en fait ces images vont avoir finalement des résolutions qui vont être de l'ordre de 0,1 seconde d'arc ou 0,05 seconde d'arc. Bon, déjà c'est très beau. Hein, donc si on peut avoir sur des sources, des disques circumplanétaires, des systèmes protostellaires sur les planètes des résolutions de 0,05 seconde d'arc, on peut faire la science concurrente au HST, télescope spatial, mais à un coût qui est à peu près 1000 fois plus faible. Hein. On ne peut pas faire au sol de rotation ultraviolette, par exemple, ce que peut faire le télescope spatial. On a un champ plus petit. Mais par contre, dans l'infrarouge, où on peut comparer les choses comparables, hein, les images prises dans les mêmes conditions, et pour certaines sources comme les planètes ou des objets relativement petits, l'optique adaptative est tout à fait concurrente de télescope spatial. Et on peut, avec un télescope spatial, on peut construire 100 optique adaptative, ou 1000 optiques adaptatives.
Bien, une dernière question, s'il y en a une. Non ? Bon, écoutez, merci encore Bruno, et à bientôt, rendez-vous le mois prochain. Merci.